Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
When it comes to your finances, you think you've done it all. You've saved, you've researched, and you've invested all that you can. Now it's time to take those investments to the next level by using the brand behind every great investor, Yahoo Finance. As America's number one finance destination, Yahoo Finance has everything you need, whether you're a seasoned trader or just dipping your toes into the market. Join the millions of investors who trust Yahoo Finance to guide them on their financial journey. For comprehensive financial news and analysis, visit yahoofinance.com, the number one financial destination, yahoofinance.com.
La bulle immobilière, présentée par Airfortin.com. Airfortin.com achète des blocs, des maisons et des terrains partout au Québec. Allez maintenant sur Airfortin.com.
Yes, lui, il va l'acheter ton bloc. Airfortin.com, yes!
CJMD 96.9, les seuls à vous parler en journée, les week-ends.
3, 2, 1,
ready for takeoff.
Let's go!
La bulle immobilière. Chaque semaine, on parle de divers sujets pour vous tenir bien informé sur tout ce qui touche l'immobilier. Des experts, des discussions, des questions et des réponses. Avec votre animateur, Jeff Morin, courtier immobilier commercial et multilogement. Et Sylvie Bougie, avocate en droit des affaires. Pour le meilleur choix en immobilier sur la rive sud et sur la rive nord. Un contenu détaillé. C'est là que ça commence. La bulle immobilière. On vous en apprend pour vrai sur l'immobilier.
969 FM.
Vous étiez à l'écoute de La Boîte. Bienvenue à notre 10e saison de La Bulle immobilière à CJMD. Mon nom est Jean-François Morin, courtier immobilier chez Nous vendons votre maison. Toujours accompagné de Sylvie Bougie, avocate en droit des affaires chez Vigie. J'ai toujours peur de me tromper. À cause du site web, je me dis, je me trompe, puis je préfère te laisser la porte par rapport à ça.
T'as raison. Vigie Québec, t'as raison, c'est mon site. Hey, comment ça va l'immobilier? Là, on est au mois de mai actuellement. Ça va commencer à bouger pas mal ou...
Ben, écoute, en toute franchise, là, l'immobilier est vraiment, vraiment, vraiment actif pour la région de Québec. Je suis allé la semaine passée sur Montréal, puis quand on parlait avec d'autres directeurs, d'autres courtiers, des team leaders, puis je gère un business là-bas, il disait, le marché est difficile, il y a pas beaucoup d'inventaire, l'inventaire sort rapidement, on a de la difficulté à avoir des bons acheteurs qualifiés, la qualification est de plus en plus dure pour pouvoir acheter la propriété, mais la valeur des propriétés reste haute. Fait qu'il trouvait ça très dur, puis je disais, je vous crois pas les gars. Fait que j'ai appelé 20 courtiers, j'ai sorti une liste de courtiers sur Montréal, je les ai appelés random pour savoir qu'est-ce qu'il y en était. Puis écoute, sur 20 courtiers, j'en ai peut-être 18 qui m'ont dit, écoute, le début de l'année, c'est un début vraiment lent, c'est vraiment plus difficile, tu sais, on doit se réajuster, etc. Puis j'étais comme, waouh, c'est quand même complètement fou.
Ben avec la hausse des taux d'intérêt, ils disaient que c'est plus dur pour les premiers acheteurs, Montréal, c'est plus cher, fait que c'est un peu logique en même temps. Fait que dans le fond, à Québec, tu trouves qu'il y a de l'inventaire même pour un premier acheteur?
Ah, il y a de l'inventaire pour un premier acheteur, puis en même temps, c'est qu'on a une croissance économique quand même très stable, on a, tu sais, une durabilité de notre secteur, on a des emplois de fonctionnaires, mais aussi des services essentiels, tu sais, on a très peu de personnes dans la région de Québec qui ont perdu d'emploi, puis comme c'est moins cher, on a beaucoup de clients de l'extérieur, dont Montréal, qui magasinent dans les périphéries de Québec ou même à Québec. Tu sais, le télétravail amène aussi, est-ce que l'Internet rentre avec des tonnes de briques? Puis la réponse est oui, bien parfait. Tu sais, ça fait partie maintenant de mes critères. Tu sais, avant ça, on mettait la localisation, le prix, c'est 50 % de la décision, 30 % de la superficie puis le nombre de chambres. Là, maintenant, c'est l'Internet. Après ça, la localisation puis le prix.
Fait que là, t'es en train de me dire que Québec devient la banlieue de Montréal. On aura tout entendu dans la bulle immobilière.
Fou, c'est quand même fou. Mais là, tu sais, nous, on a des petits projets à Québec. On a genre le tramway qui s'en vient. Mais tu sais, c'est un TGV qu'il faut entre Montréal et Québec. Là, ça sera encore plus simple.
Et je fais du pouce là-dessus parce que qui parle d'acheter des maisons à distance parle de location Airbnb. Puis aujourd'hui, on va parler à quelqu'un qui s'y connaît pas à peu près. On parle à François-Xavier Raté. Salut François-Xavier, comment ça va?
Salut, ça va bien?
Mais ça va super bien. On est vraiment content de te recevoir parce que, Crime, moi, je te connais, là, Raté, Comte-Ville de Québec. On va pouvoir en parler, mais c'est une décision qui avait été rendue au niveau justement de la location Airbnb. Mais tu es aussi le président fondateur de Bloc Solutions. Super intéressant, donc des solutions pour des propriétaires d'immeubles, là, donc petits, moyens ou grands propriétaires. Parle-nous de toi d'abord là, dans tout ça. Là. Qu'est-ce qui t'a amené à l'immobilier?
Yes, ouais, bon, j'ai toujours été intéressé par l'immobilier. J'aime ça utiliser mes mains, j'aime ça genre jouer avec des outils puis tout ça. Fait que quand j'ai fini mon bac en comptabilité, c'était naturel que je voulais aller m'en aller en immobilier. Puis je suis vraiment intéressé par l'efficacité des entreprises. Puis quand je suis sorti du bac en comptabilité, je me suis intéressé vraiment à l'immobilier parce que le cas est quand même simple. Tu sais, t'as un locataire, t'as un logement, t'as des dépenses. La comptabilité devrait pas être compliquée. L'administration de ça devrait pas être compliqué. Il y a trois affaires. Mm-hmm. Fait que je me suis dit, même à 500 portes, je dirais, y a pas de raison. C'est le même logement, le même locataire, les mêmes paiements. Fait que je me suis dit pourquoi. J'ai rencontré des entreprises, puis je comprenais pas pourquoi c'était pas déjà tout automatisé, pourquoi il y avait encore du monde qui travaillait là-dedans.
Puis surtout que la récurrence, ça revient une fois par mois. C'est pas comme si c'était à toutes les semaines ou ce qu'il y avait plusieurs facturations. Tu sais, il y a des gens dans des entreprises où il y a des départements facturants parce qu'ils vont sortir des milliers de factures par jour. Toi, tu reçois un chèque à tous les mois, c'est tout, là.
C'est ça. Puis tu payes ton hypothèque une autre fois par mois, puis that's it, là.
C'est vrai.
Fait que, genre, tu sais, le montant de l'hypothèque peut varier, mais c'est pas mal ça, là. Mm. Puis de temps en temps, t'achètes un immeuble, mais c'est pas mal tout le temps la même chose que tu fais les mêmes comptes, les mêmes transactions. Fait que je m'intéressais justement à ce cas-là, parce que je me disais que c'était un cas qui était particulièrement automatisable. Mm-hmm. Puis justement, genre, en parallèle de ça, ben, j'étais à l'université, genre, longue histoire, mais j'ai décidé de changer d'université en milieu de parcours. Fait que j'avais un appartement vide à Montréal. Je l'ai affiché sur Airbnb, là, 9 ans de ça. Ben, maintenant. Puis Airbnb, il y a 9 ans, ça commençait. Là. C'était vraiment underground. Personne n'en parlait. J'ai affiché mon logement donc, pendant un été à Montréal. Puis j'ai fait une fortune. J'ai fait genre 12 000 piastres par mois pour un appart qui me coûtait même pas 2 000. Fait que là, je voyais l'argent, j'étais comme, je comprenais rien. Là. Ça a payé ma session, ça a payé mon université au complet. Fait que j'ai répété l'expérience après ça dans le sous-sol chez mes parents. Je leur ai donné un peu d'argent pour aménager la partie pas finie du sous-sol. Puis j'ai aménagé moi-même. J'ai construit 2 chambres de plus là-dedans. J'ai commencé à louer ces chambres-là pendant l'été. Ça a généré un peu plus d'argent. Après ça, j'ai acheté une maison, je l'ai opéré en Airbnb, une autre maison. Après ça, j'ai réalisé que je pouvais grossir pas mal plus vite si j'allais voir des propriétaires puis je m'associais avec eux. Fait que ce que je faisais, dans le fond, disons que t'avais un logement à 1 000 $ par mois, ben moi, j'arrivais, je te proposais 20% de plus que le prix du marché, puis je l'opérais, dans le fond, sur Airbnb avec toi.
Fait qu'un loyer, par exemple, à 1 000 $ par mois, tu y proposais 1 200, puis en proposant 1 200, toi, tu t'occupais de la gestion court terme à l'interne. Tu t'assurais qu'il n'y ait pas de bris, que tu aies une bonne clientèle, que ça dérange pas les gens dans les entours. Puis, tu sais, peut-être que tu pouvais facturer 5 000 $. Fait que, tu sais, le surplus te revenait direct à toi.
Exactement. Fait que ça m'a permis de passer à plus d'une cinquantaine de logements assez vite en 2 ans. Puis dans ce temps-là, c'était pas encore clair. Ouais. Aujourd'hui, la loi...
Oui, mais ça, on va y revenir avant de rentrer trop en profondeur sur le sujet. Là, on va continuer sur ton parcours parce que là, je vois déjà un esprit entrepreneurial. Uh-huh. Tu vois des opportunités, tu fonces. Tu nous parlais aussi en pré-entrevue que tu as un côté très techno, très geek aussi. J'aimerais ça t'entendre mm-hmm. là-dessus. Là,
ouais.
En plus, tu es allé en comptabilité, fait que me semble que ça fit moins.
Oui, le monde dit ça, effectivement. Mais tu sais, moi, c'est drôle, j'ai fait un an de génie informatique à Montréal. Puis c'est pour ça que je suis parti justement parce que j'étais trop dans ce que je faisais parce que j'aimais. Mais c'est con, là. Mais c'est genre, j'aimais pas les cours. Mais genre, pas que je connaissais toute la matière, là. Je veux dire, il y a plein d'affaires à apprendre en génie informatique, même pour un gros geek, là. C'est juste que genre, j'avais le feeling que c'était pas assez complémentaire à ce que je savais pour être utile. Fait que c'est pour ça que j'ai fait de comptabilité en me disant, genre, je reviendrai vers l'informatique un moment donné. Mais, tu sais, j'avais le feeling que je savais déjà assez en informatique ce que je voulais faire pour, mettons, faire un logiciel, là. Tu sais, faire un logiciel, c'est pas nécessairement un défi de niveau universitaire. En informatique, ben, tu vas finir par engager des ingénieurs, engager des universitaires, puis tu vas être capable de faire la job. Tandis qu'en comptabilité, je trouve que comme président d'entreprise, c'est plus utile comme skill set.
Définitivement, là, parce que tu sais, Money Talk, là, tu sais, toutes les décisions d'affaires vont toujours avoir un poids financier, à savoir est-ce que c'est le bon moment d'engager, est-ce qu'on a les liquidités pour faire de l'acquisition, est-ce qu'on, tu sais, peu importe nos décisions mm-hmm. d'affaires, est toujours générée sur notre gestion du cash. Fait que c'est sûr qu'en ayant cette base solide-là, ça te permet de pousser plus rapidement ton entrepreneuriat. Là.
C'est ça. Apprendre la comptabilité sur le tas, c'est plus tough un peu. Là. Mm. c'est pour ça que j'ai été en comptabilité.
Apprendre l'informatique sur le tas, je te confirme que c'est tough aussi, là, mais bon, c'est un autre sujet.
Pour moi, c'était plus facile, mais ouais. Chacun son défi.
OK. Fait que, dans le fond, t'es jeune, tu t'intéresses à l'informatique, tu t'intéresses aussi donc à la comptabilité. Viens-tu d'un milieu entrepreneurial ou pas du
tout? Oui. J'ai un père qui est entrepreneur, puis ma mère était professeure au primaire, ce qui donnait une bonne stabilité à la maison aussi.
Oui, puis moi, j'adore ça, les gens qui sont entrepreneurs, puis le conjoint-conjointe, qui eux ont une job normale, où tu sais, moi, j'ai toujours aux gens aux alentours de moi que ma blonde, elle a une job sérieuse. C'est pas à cause que ma job est pas sérieuse, mais tu sais, au sens de Revenu Québec, au sens des institutions financières, elle, c'est sérieux, là.
Oui, exactement.
Mes employés, eux autres, ils ont une job sérieuse. Mais pas celui-là qui signe le chèque de paye. Ça, ouais. C'est toujours...
Non, exactement.
Puis par la suite arrive, tu sais, Bloc Solutions, parce que justement, t'es fondateur de Bloc Solutions. On peut voir un peu ton parcours aussi sur comment tu avais l'esprit entrepreneurial pour aller là-dessus. Mais j'aimerais ça que tu puisses nous donner le gros guideline de qu'est-ce que c'est Bloc Solutions.
Bon, ben, première chose, c'est drôle parce que justement, je parlais d'Airbnb. Tout le monde pense que Bloc Solutions, Airbnb, il y a un lien. Il y a vraiment pas de lien entre les deux. Airbnb, c'est pour le court terme. Bloc Solutions, c'est pour la location résidentielle. Fait que, dans le fond, c'est un kit d'outils. Vois ça comme une plateforme, mais comme un kit d'outils pour le propriétaire pour faciliter sa gestion. On est un peu le canac des logiciels de gestion, t'sais. Fait que, dans le fond, on est vraiment pas cher. $1 par logement par mois. Puis le propriétaire nous utilise pour, entre autres, faire ses enquêtes de crédit, trier ses candidatures, faire son bail numérique, qui est comme le cœur de la plateforme, puis faire toutes ses communications légales autour de son logement. Fait que au fur et à mesure que ton logement va évoluer, évidemment, autour du bail, tu vas avoir des communications envoyées. Mais une fois que ton bail est signé, tu vas collecter tes paiements aussi à partir de Bloc Solutions. Si tu as un non-paiement, si tu as des retards de paiement, etc., tu peux les documenter dans Bloc, puis ça te permet d'avoir un log légal de ces documentations, de ces communications.
Question par rapport à ça, tu sais, au niveau des communications légales, c'est que le locataire doit consentir justement à utiliser cette plateforme-là de communication. Mm-hmm. Ça, il n'y a pas le choix. Puis le propriétaire, justement, les deux, il faut qu'ils consentent au même outil. Puis si jamais il y a un avis qui est envoyé, ben c'est considéré comme de quoi qu'il y ait un avis reçu, un avis lu, puis un avis qui est conforme. T'sais, c'est ça aussi. Oui.
Non seulement quand il est envoyé, toi, tu es backé comme propriétaire, ça c'est sûr, mais en plus, comme propriétaire, t'as un log de toutes les fois que le locataire va aller voir le document puis il va le lire. Fait que tu peux dire non seulement mon locataire, tu peux aller en hôtel dire non seulement j'ai satisfait mon obligation de l'envoyer puis il a été bien envoyé, mais le locataire l'a ouvert 3 fois à telle heure, à telle place, à telle heure, à telle place, à telle heure, à telle place.
Puis dans un cas où ce que le locataire a une mauvaise foi puis tu sais il fait juste ignorer les avis, ignorer les courriels, tu sais qui a déjà mis un filtre pour mettre ça dans ses courriels puis de jamais le revoir là, tu sais il y a ça aussi là.
Au moment de la signature du bail, le locataire, il signe une annexe comme de quoi qu'il accepte les communications par courriel. Fait que s'il est de mauvaise foi puis qu'il spam, exemple, il se met un filtre automatique pour pas voir tes courriels, il peut pas s'en sortir comme ça parce qu'il a signé une annexe comme de quoi qu'il accepte
les communications par courriel. La question qui tue, est-ce qu'on peut sélectionner un locataire sur des conditions de bail qu'il ne voudrait pas avoir au bail? Si je donne un exemple, j'ai 2 ou 3 candidats. Il y en a, tu sais, 2 qui disent oui, je vais signer ton annexe, puis l'autre, il dit non, moi, je signerai pas ton annexe. Mm-hmm. Est-ce que nous, à titre de propriétaire, on a le droit de refuser le candidat pour dire, écoute, nous, dans nos conditions de bail, ça fait en sorte que tu ne respectes pas la condition de notre annexe pour l'outil de communication, mais à cause de ça, malheureusement, ta candidature est rejetée.
Oui, c'est une condition pour avoir le logement, comme interdire les chats, les chiens, interdire aux fumeurs, non-fumeurs, okay. C'est le même genre de condition.
Okay. Parce que je trouve ça quand même pertinent, parce que, tu sais, des fois, on peut garder avec un « Hey, on a-tu le droit, on a-tu pas le droit, est-ce qu'il pourrait faire ça, est-ce que, tu sais, on est dans nos droits? » Parce que, tu sais, il y a plusieurs personnes qui vont essayer de contourner la loi pour essayer d'avoir des meilleures conditions au bail ou tu sais de s'assurer que le locataire va payer, etc. Mais on n'est vraiment pas là-dedans. Là. Fait que, on a le droit de...
Effectivement. Mm-hmm.
Ce qui est intéressant aussi, comme tu disais, c'est que tu as des avis de défaut qui sont envoyés automatiquement. Puis tu sais, souvent, quand on est propriétaire, on hésite, on veut pas avoir l'air agressif. Tu sais, souvent, tu sais, moi, j'en ai des clients des fois, c'est moins mon core business, le logement, mais ça reste que j'ai des clients des fois qui m'appellent. Puis tu sais, c'est gênant là, de commencer à envoyer une mise en demeure de défaut de paiement, surtout si on est le 15 du mois. Tandis que toi, ce qui est le fun dans ta plateforme, c'est que l'avis de défaut est vraiment envoyé rapidement.
Oui.
Donc, je trouve que ça l'enlève beaucoup de gêne, ça sauve des délais. Puis on le sait, là, le tribunal administratif du logement, ça reste un tribunal, il y a des délais. Donc, si on est capable d'en sauver dès le début, je pense que c'est très
avantageux. Oui, c'est ça. Il y a déjà comme 3 mois de délai pour non-paiement. Si tu es capable de partir ton 3 mois le plus tôt possible, c'est déjà ça de gagner. Fait que, dans le fond, comment ça fonctionne? Le premier du mois, si le locataire, le DPA ne fonctionne pas, le débit préautorisé, dans le fond, on prélève l'argent dans le compte du locataire, on le dépose dans le compte du proprio. Si ce paiement-là passe pas le premier du mois, ben, automatiquement on envoie un avis au locataire. Puis ça, ça te sert de date de base, si on veut. Fait que 21 jours plus tard, je pense, tu peux envoyer ta notice au TAL.
Puis en même temps, c'est que tu as déjà l'avis comme de quoi il a déjà reçu l'avis. Fait que là, tu pars pas ça à ce moment-là.
Puis c'est ça. Parce que sinon, ce qui se passe, c'est que tu attends comme le 15 du mois. Puis là, le 15 du mois, tu envoies ton avis. Mais le 21 jours plus tard, tu es déjà rendu au mois suivant. Tu as déjà un mois de plus de retard.
Ah, ouais, exact, exact. Puis c'est souvent, ça peut prendre entre 6, 8, t'sais, des fois 12 semaines si jamais on est mal organisé, tandis que là t'sais, on vient donner la structure, l'organisation, puis t'sais, accélérer les procédures. Fait que ça, c'est quand même...
Non, mais clairement, parce que t'sais, tu dis mal organisé, mais quelqu'un qui est propriétaire de 15 portes là, puis qui fait ça tout seul, ça se peut qu'il pense pas tout le temps de checker son relevé de banque à tout le premier du mois pour voir s'il y a du retard ou le 3 du mois. Fait que t'sais, je trouve que d'automatiser, ça l'aide. Là. C'est un outil vraiment hot. Puis le débit préautorisé, ça, il faut en reparler parce que c'est vraiment hyper intéressant. Puis il y a des avantages là, à ça. Moi, c'est sûr qu'on va en reparler de ça. Je pense que ça met déjà la table, hein, Jeff? Qu'est-ce que t'en penses?
Ben, écoute, moi, pour vrai, là, je voulais savoir plein d'affaires. Combien d'unités locatives, de clients, etc. C'est quoi la structure, comment d'employés, etc. Fait que c'est sûr qu'on va revenir après la pause avec ces informations-là parce que ça reste vraiment important puis je veux en connaître un peu plus.
Évidemment.
Vous êtes à l'écoute de La Bulle immobilière qui est diffusée tous les samedis, 11h, juste après la boîte, mais juste avant, zone parallèle. Restez avec nous, on revient tout de suite après la boîte. 96.9
96.9 La Bulle immobilière, présentée par Airfortin.com. Airfortin.com achète des blocs, des maisons et des terrains partout au Québec. Allez maintenant sur Airfortin.com.
Yes, oui, ils veulent acheter ton bloc.
Dormière,
Loretteville.
CJMD, la radio des classiques, baby.
Hey yo, what's up everybody, ici c'est DJ Ray Ray, directement de MTL, non mais, quand je suis dans la région de Québec, je suis tuned in au 96.9 Lévis. Holla!
De retour à La Bulle immobilière.
De retour à La Bulle immobilière.
Aujourd'hui, nous sommes avec François-Xavier Raté, qui est président... fondateur de Bloc Solutions. Puis d'entrée de jeu, là, tu sais, avant qu'on commence à faire la pré-entrevue puis qu'on jase, etc., Sylvie puis moi, on fait des fois des petites recherches, on check un peu c'est qui nos invités qui vont venir à Bulle immobilière. Puis elle m'avait montré un article comme de quoi qu'il y avait eu, je veux pas dire une tollée, mais une poursuite, je pense, c'est ça. Et, écoute, je te laisse expliquer.
OK. Ah ouais, tu me laisses expliquer ça, ça y est. Bon, c'est bon. Non, mais en fait, notre invité aujourd'hui est connu. Il a même passé dans les médias à plusieurs reprises là en lien avec le fait qu'il a pris les devants. Il a vraiment défendu son point de vue au niveau autant au début de la cour municipale et ensuite même en cour supérieure, au niveau de tout ce qui est moyen d'enquête, hein, au niveau du Airbnb. Je pense que c'était ça la clé, mais t'es là, donc on va en parler. Peux-tu nous expliquer comment ça s'est passé, que tu sais, c'est quoi au début l'élément déclencheur dans le fond, puis toute la procédure que tu as connue et vécue?
Yes. Donc au début, dans le fond, j'ai commencé justement en faisant du Airbnb un peu rodéo un peu partout. Puis justement, la ville aimait pas trop ça parce que bon, la ville a le droit de zoner son territoire, puis là-dedans, elle a le droit de réguler l'usage des logements qui sont sur son territoire. Puis à l'époque, faut se rappeler, le 7-8 ans sur Airbnb, c'était vraiment pas clair qu'est-ce que tu pouvais faire où. Il y avait pas encore le permis de résidence principale, il y avait les permis de CTQ, ça existait, mais c'était pas encore, tu sais, c'était pas encore commun.
Puis encore, en date d'aujourd'hui, en 2023, ils commencent à légiférer un petit peu plus strictement sur c'est quoi les usages puis de quelle façon qu'on doit procéder. Tu sais, Airbnb actuellement, là, qui essaie de dire on va contrôler le type de clientèle à savoir s'ils ont des permis ou pas de permis. Fait que, tu sais, t'es très précurseur, là. Tu sais, c'est
comme... Depuis Ville de Québec, contrative, le 2 ans, c'est pas mal plus clair, là. À cette heure, il n'y a plus beaucoup d'excuses au niveau de la ville. Dans le fond, la cause était autour du fait que la ville, ben, moi, j'acceptais que j'avais affiché des logements sur Internet pour les rendre disponibles au moins 30 jours. Puis, moi, je prétendais, dans le fond, que la ville avait besoin de faire plus que la démonstration de ça. Non seulement la ville devait démontrer que je l'avais affiché, mais elle devait aussi démontrer que je l'avais loué. Parce que je prétendais que l'afficher, c'était pas user le territoire. T'sais, si t'affiches ton intention de faire un building sur un coin de rue, t'as pas encore usé le territoire en même temps que t'as rien fait. Fait que c'est un peu ça notre raisonnement. Puis on était justement jusqu'en cours supérieur avec ça. On a été, ben en fait, je suis administrateur de la communauté Airbnb Québec. On a 10 000 hosts là-dessus. Puis la communauté m'a beaucoup aidé justement pour partager les frais de défense. Puis on s'est battu ensemble, on a regroupé un paquet de tickets ensemble.
Ah ouais, wow, c'est cool ça.
Mais ouais, c'était vraiment intéressant. On a regroupé un paquet de tickets ensemble qui étaient similaires sur le même argument. Puis on s'est battu pendant quasiment 2 ans justement pour se rendre en cours supérieur, puis finir par perdre justement de façon quand même honorable. Le jugement dit qu'on avait raison sur pratiquement tous nos arguments, sauf que à la fin de la journée, la ville a démontré que les juges ont décidé que si on faisait un affichage, c'est nécessairement qu'on faisait un usage parce que l'usage
l'intention.
Qu'on fait, non, c'est pas ça, c'est l'intention, il y avait pas le droit, ça on était bon là-dessus. Mm-hmm. Là où ils nous ont eu, c'est que quand tu affiches ton logement, il est nécessairement pas résidentiel parce qu'il est nécessairement vide, il est meublé, il est prêt à recevoir des touristes. Tu comprends? T'as pris des photos dedans, puis pendant que t'as pris des photos, il était pas en train de faire un usage résidentiel. T'étais à la limite en train de faire du home staging, mais pas un usage résidentiel. Fait que le fait que t'affiches, ça reconnaît un usage non résidentiel. Puis ça, c'est là-dessus que la ville peut nous donner une étiquette.
Quand même, hein? Fait que tu sais, il y en a quelques-uns qui ont gratté quand même un peu pour en arriver à ça, là. Ouais.
On a travaillé fort. Écoute, la bataille était sincère, puis était noble, oui, puis mais aussi sincère. Tu sais, on croyait beaucoup en nos arguments et tout, puis ben on a perdu. Donc aujourd'hui, on s'est régularisé avec la loi, on a des permis partout, puis on opère légalement comme il faut. Mais c'est ça, ça nous a forcé à fermer beaucoup de logements à ce moment-là, c'est évident.
Puis c'est qu'est-ce qui fait en sorte que la ville veut tolérer ou limiter ou concentrer la location Airbnb puis veulent pas ouvrir ça à n'importe qui.
Ouais, théoriquement, ce qu'ils vont dire, c'est que c'est l'impact négatif que ça peut avoir sur le quartier. Fait que c'est, mettons, le bruit, les valises, etc. Ça peut déranger les citoyens. Fait que comme il peut avoir des plaintes des citoyens, c'est le genre d'argument qu'ils vont donner. Bon, moi j'y crois pas. En fait, j'y crois un peu, mais en même temps, le problème, c'est qu'à Québec, on n'a pas assez de zonage d'Airbnb. On a genre quelques rues qui sont zonées pour... c'est, ils ont fusionné, c'est 10, c'est 11, l'auberge, l'hôtel puis l'hôtellerie, ils ont tous fusionné ça. Mais il n'y a pas assez d'endroits à Québec où on peut le faire. Il y a 3e Avenue, il y a quelques endroits dans Saint-Roch, mais essentiellement toutes les places où tu peux le faire, c'est déjà des Airbnb, il y a encore de la demande. On est dans un marché super touristique. La ville de Québec, c'est une belle ville touristique. C'est super bon pour notre économie du tourisme. Puis on
amène le nouvel argent qui est dépensé directement dans les commerces locaux. Là. Oui. C'est comme... Puis est-ce que ça se peut qu'il y ait une certaine pression aussi des hôteliers? Parce que là, ils doivent dire... Ah, mais tu sais, il y a une taxe d'hébergement qu'eux payent pas. Je sais pas, là, tu sais, moi, j'ai pas d'Airbnb, fait que tu vas peut-être me renseigner là-dessus. Mais tu sais, est-ce que ça se peut que les hôteliers aussi, ou un regroupement d'hôteliers, viennent mettre une pression pour dire, écoute, ces gens-là exercent, c'est des compétiteurs premiers de mon entreprise qui fait en sorte que j'arriverai pas à faire...
À l'époque où c'est que toute l'industrie opérait illégalement, effectivement, genre, il y avait des gens qui remettaient pas leur taxe de vente, il y avait des gens qui remettaient pas leur, qui payaient pas leur taxe municipale commerciale. Moi, dans mon cas, tous les endroits où on a les permis à ville, évidemment, on paye nos taxes municipales. Les taxes d'hébergement sont remises à même Airbnb depuis 4-5 ans. Fait que comme le niveau est rendu vraiment plus égal, puis les taxes de vente, je veux dire, moi, je remets toutes mes taxes de vente. S'il y a des entrepreneurs qui remettent pas leur taxe de vente, c'est illégal comme dans n'importe quelle industrie, là. C'est pas vraiment hôtellerie ou spécifique à Airbnb, là.
Mais... est-ce que je me trompe ou on sent quand même une nouvelle ouverture là avec les nouvelles règles au niveau des résidences principales qui permettent la location? On peut louer maintenant notre résidence principale. Je comprends que c'est pas un logement que j'agite puis que je loue à temps plein, mais ça reste qu'il y a une belle ouverture quand même.
Ça, je trouve que c'est cool. C'est déjà ça la base, effectivement. C'est le minimum. Là. Je veux dire, permettre à un citoyen de louer son logement quand il est vide, c'est vraiment la base. Là. effectivement, genre, puis tu sais, moi, c'est parce qu'après ça, si tu peux louer ton logement 90 jours par année puis ça dérange pas les voisins, pourquoi est-ce que tu peux pas le louer 365 jours puis ça dérange pas les voisins? Ou, tu sais, en tout cas,
je suis d'accord. La logique tient pas.
Je veux dire, genre, ça démontre un peu que le dérangement, c'est le voisinage, n'est pas si grand que ça. Là. Puis à la limite, faire un système de permis où c'est que si t'as trop de plaintes des voisins, tu peux le perdre ou un truc comme ça, ça serait peut-être jouable. Mais bon, on n'est pas là
encore.
Ça a été quand même un parcours, tu sais, de combien d'années tout ça?
Écoute, ça fait 8-9 ans que j'ai commencé. Aujourd'hui, il m'en reste beaucoup moins. Là. Il me reste beaucoup moins de logements qu'à l'époque. Puis aujourd'hui, j'ai des permis CITQ partout.
Mais tu sais, la procédure, là...
Le parcours légal, ça a été 2 ans, le cours supérieur. En fait, ça a été comme 4 ans quasiment total. Ouais, entre le moment où j'ai eu le ticket puis le jugement final, ça a été à peu près 4 ans.
Mais chapeau pour ça, parce que souvent, qu'on le veuille ou non, là, le système judiciaire, c'est cher, c'est long, on n'ose pas tout le temps faire valoir nos arguments, mais je trouve que l'idée d'avoir fait un regroupement de personnes, au moins vous en avez le cœur net, l'argument...
C'était la seule façon de se défendre. Puis tu sais, à la limite, quand tu perds en cours, je comprends qu'il faut que tu payes tes frais d'avocat, mais quand tu gagnes, c'est frustrant un peu, surtout dans un ticket municipal. C'était comme 30-40 000 piastres d'étiquette, puis ça a coûté plus que ça en frais d'avocat. Fait que, genre, si j'avais gagné, ça aurait été vraiment choquant, parce que j'aurais sauvé mon 40 000 d'étiquette, mais j'aurais quand même payé plus en avocat. Fait que, j'ai trouvé que c'était. Parce qu'on se battait plus au niveau du. Pour le concept, on se battait pour le reste des logements, puis tout ça. Mais en tout cas, j'ai encore de la misère avec ce principe-là, là, qu'en droit municipal, si tu gagnes, je pense que tu devrais te faire rembourser tes frais d'avocat, ou au moins 80% de tes frais d'avocat.
Ouais. Oui, oui, c'est clair. Mais c'est pas pour rien que je fais pas de litige, hein. Moi, en passant, je ne plaide pas devant les tribunaux. Je fais du droit des affaires puis du droit immobilier pour cette raison-là, parce que c'est tellement fâchant quand même les honoraires. Puis souvent, en litige, c'est que les clients, qui, même si, comme tu viens de dire, même quand ils gagnent, ils sont pas contents d'une certaine façon, parce qu'il y a eu du temps, il y a eu du stress, il y a eu tellement d'énergie puis de l'argent finalement au bout du compte que... On le dit souvent, le meilleur règlement vaut le pire règlement vaut le meilleur jugement. C'est pas pour rien, mais c'est pas pour rien non plus que je suis en droit des affaires, en plus en mode solution, puis en mode
vraiment.
Ouais.
Puis tu sais, ça pour vrai, là, on avait parlé en entrée de jeu, puis tu sais, il fallait en parler parce que tu sais, on avait plein de questions qui nous brûlaient les lèvres pour en savoir comment que ça avait passé. Mais tu sais, j'aimerais ça que tu nous donnes un peu la vision de Bloc Solutions. C'est quoi les services? On va parler du bail électronique, là, mais. Combien d'entreprises, par exemple, en date d'aujourd'hui, utilisent vos services? Mm-hmm.
Fait qu'aujourd'hui, il y a 10% des immeubles au Québec qui sont gérés sur Bloc.
Wow.
Fait que, ouais, c'est quand même solide. On a grossi beaucoup pendant le COVID. C'est sûr, on est passé de comme 1 à 5% au début du COVID. Fait que, évidemment, tout le monde avait besoin de signer un bail à distance. Fait que tout le monde nous a sauté dessus. Depuis ce temps-là, on a continué de grossir naturellement. Fait que ça, c'est 10 500 propriétaires. Fait que, tu sais, les gens pensent que c'est juste pour les gros propriétaires ou, tu sais, qu'ils n'ont pas le temps de magasiner un logiciel. Notre propriétaire moyen a 10 logements. On a quelque chose comme 20% de nos clients qui ont une seule porte.
Puis, tu sais, tu dois avoir aussi des compagnies de gestion qui, eux autres, utilisent ta plateforme justement pour l'ensemble de ses clients.
Ouais. Fait qu'on a à peu près 30% de notre volume qui vient des propriétaires de plus de 200 portes. Puis, tu sais, ça, on a des agences de 3000 portes à Québec, on a une agence de 6000, 7000 portes à Montréal. Fait qu'on a quelques très grosses agences qui nous utilisent. Dans le fond, pour ces agences-là, le calcul, c'est facile. C'est si tu payes tes employés plus que genre 4 piastres de l'heure, si tu sauves de l'argent à m'utiliser, tu sais.
C'est généralement le cas au Québec.
Ouais, c'est ça, tu sais. Le 4 piastres de l'heure, là, c'est même pas la moitié de tes DAS, peu importe le salaire, là.
Mais c'est vraiment intéressant. Puis vous êtes combien dans l'équipe qui gère Bloc Solutions?
On est 7 chez Bloc actuellement. Ouais.
Okay. Puis qu'est-ce qui fait en sorte là, que votre entreprise démarque aussi pour la rétention des clients, puis tu sais, sur la vision en arrière de tout ça?
Yes, avant de parler de ça, on a un poste ouvert au marketing, je vous invite à appliquer sur notre site.
Yes sir, on aime ça.
Yes, dans le fond, c'est, ouais, si vous voulez faire du marketing, vente en immobilier, vous voulez développer un réseau vraiment fou, venez en chez nous. Plus vraiment dans ta question, un des trucs vraiment cool qu'on fait pour nos employés, tu sais, nos employés, on veut qu'ils s'intéressent à l'immobilier, on veut les encourager à regarder les listings, à regarder Centris, à regarder du proprio puis à magasiner. Fait que ce qu'on fait pour ça, c'est qu'après 3 ans d'ancienneté, à leur 3e année d'ancienneté, on leur prête 30 000 pour qu'ils s'achètent leur premier immeuble locatif. Fait que ça leur permet de s'acheter un duplex ou un triplex dès le départ. Puis ben ça leur permet justement de commencer à accumuler du revenu. T'sais, on n'a pas les moyens comme Alcan de genre payer sur des fonds de pension de fou, là. Mais honnêtement, je pense que entre un fonds de pension puis des immeubles, genre en tout cas.
Sur le long terme, sur l'apprentissage, t'achètes du mortier puis de la brique, c'est beaucoup plus concret. Puis tu sais, des fois tu peux avoir des fonds de pension comme par exemple comme la construction. Ou ce qu'ils savent pas, genre comment ils vont faire pour payer les retraites des autres. Là. Fait que,
exact. Au moins, tu dépenses seulement de toi puis de ce que tu vas faire. Tu es en contrôle de tes affaires, ça, c'est clair.
Mais ça, c'est quand même très hot aussi. Là. Ouais. Puis, tu sais, où est-ce que Bloc Solutions se démarque énormément?
Oui, donc continue. Non, mais j'allais dire au niveau des concurrents, mettons, parce que j'imagine que vous n'êtes pas la seule plateforme de gestion. Ou
Ben, c'est sûr qu'on a quelques compétiteurs au Québec, là, mais genre on est probablement le plus gros. Nos compétiteurs sont moins transparents sur leurs chiffres que nous. Fait que c'est difficile à juger. Mais d'habitude, quand ils sont moins transparents sur nos chiffres
qu'est-ce
que nous.
Qu'est-ce qui te différencie d'eux, mettons?
Yes. Ben, nous autres, c'est vraiment la facilité de l'utilisation. Ça, on l'a conçu vraiment pour que ce soit ultra facile à utiliser. Chacune des clauses dans le bail, t'as un petit bouton pour avoir plus d'informations. Tu peux aller lire un article de blog, t'expliquer comment ça marche. Mm. Quand t'écris nos annexes, tu coches ce que t'as besoin, puis genre, c'est super clair qu'est-ce qui est dedans. Puis après ça, on te met le jargon légal en bas, mais tu sais, on te le résume facilement, simplement. Fait que, on insiste vraiment sur la facilité d'utilisation. C'est vraiment le cœur de ce qu'on fait, puis c'est ça qui nous démarque le plus.
Je pense qu'en étant spécialisé aussi sur une application ou, tu sais, sur des outils de gestion de bail, ben, vous avez une certaine GED à l'intérieur où vous avez tous vos baux, tous vos avis de renouvellement, tous les annexes. Vous devez avoir justement les consultations, à quel moment que les gens ont signé les documents, à quel moment qu'ils ont consulté les différents avis, etc. Fait que ça doit être une plateforme de GED quand même assez complète. Là.
Une GED, pour les gens qui sont pas courtiers, c'est une gestion électronique des documents.
Merci.
Fait que terme très courtier, là, j'ai jamais entendu un non-courtier dire ce mot-là.
Un non-courtier.
Oui.
Moi aussi, j'étais là. De quoi il parle avec son GED?
Ouais, un courtier moldu. Donc c'est ça. Fait que un gestion électronique des documents. C'est comme ça que l'OICQ appelle ces outils. Ouais. Puis oui, c'est ça, dans le fond. Donc oui, on est une plateforme pour regrouper tous tes documents. Fait que tu peux rajouter tes notes, mettons tes assurances, tout ce que tu peux imaginer comme documents en lien avec l'immeuble. Tu sais, l'idée, là, dans le fond, c'est d'éliminer le classeur de ton ton bureau. Là. Quand on compare les coûts-bénéfices d'utiliser Bloc Solutions, tu vas sauver un classeur.
Fait que là, wow. T'es en train de me dire que moi, par exemple, j'ai 2-3 conventions d'actionnaires, j'ai une quinzaine de portes sur différentes ententes, là, sur 3 partenariats. Fait que tu sais, ça.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Finding your perfect home was hard, but thanks to Burrow, furnishing it has never been easier. Burrow's easy-to-assemble modular sofas and sectionals are made from premium, durable materials, including stain and scratch-resistant fabrics. So they're not just comfortable and stylish, they're built to last. Plus, every single Burrow order ships free right to your door. Right now, get 15% off your first order at burrow.com/ACAST. That's 15% off at burrow.com/ACAST.
Je pourrais me permettre, par exemple, de mettre toutes mes factures à l'intérieur de ça, de d'Hydro-Québec, mes assurances, mes baux, mon dédingement, etc. Fait que quand arrive le dossier de financement ou refinancement, en un seul clic, je clique dessus.
T'as tout compris. Ouais, oui, là. Oui, exactement. Fait que c'est ça. Tu regroupes effectivement toute ta gestion à une place. Puis aussi, ben, tu peux créer des comptes utilisateurs pour tes associés. Fait que des fois, t'as des associés pour l'immeuble qui vont dépenser aussi, qui vont gérer leurs affaires. Ils peuvent tout aller mettre ça eux autres aussi là-dessus.
Puis après ça, est-ce qu'on peut associer notre comptable aussi pour les paiements?
C'est ça que j'allais
ben,
dire.
Oui, c'est ça. Fait que tu peux ajouter ton comptable. Ben, en fait, c'est que t'ajoutes un n'importe quel employé, comme n'importe quel autre employé, dans le fond. Tu peux ajouter ton comptable. Puis donc, tu fais toi-même le suivi de tes paiements.
Les accès de chacun, t'as le droit à ça, pas ça, etc.
That's it. Puis ton comptable télécharger toutes tes transactions après ça en CSV pour les envoyer vers le logiciel comptable de son choix.
Ça doit avoir été long de développer cette plateforme-là?
Ça fait 8 ans que je fais ça, puis on est toujours en développement continu, mais ça a pris à peu près... Ben, une fois qu'on avait comme compris qu'il fallait vraiment focusser sur le bail et les communications numériques, ça nous a pris à peu près 2 ans à le faire. Au début, ça nous a pris comme 2-3 ans d'expérimentation à chercher un peu exactement comment
répondre. C'est quoi la niche, là?
Ouais, c'est ça. C'est quoi la niche? Qu'est-ce qu'on allait faire? On a essayé de faire du marketing, du logement, plein d'autres affaires, mais bon, on a compris que ce que le client voulait vraiment, c'était le bail numérique. On a compris comment le faire mieux que tout le monde.
Puis tu sais, un des gros avantages que vous avez, c'est que vous vivez plein de situations particulières parce que, tu sais, quand tu as des compagnies de gestion qui ont 6000 logements, des compagnies de gestion qui ont 3000 logements, puis tu as aussi des entrepreneurs qui ont un logement ou peut-être 10 logements qui vont avoir leur annexe à eux, qui vont vouloir inclure ça, mais pas ça. Ben, tu sais, vous avez vu toutes les sortes d'annexes, toutes les sortes de conditions, etc. Mm-hmm. Puis vous pouvez permettre d'avoir des clauses types, si on veut, ou des annexes types que les gens peuvent utiliser puis annexer à leur bail directement, ou il faut tout que ça soit du custom?
Premièrement, effectivement, on a des annexes de base que tu peux importer. Fait comme ça, justement, quand tu commences, c'est super bon pour toi. Les très gros propriétaires, comme les 2-3 000 portes, on a un package pour eux qu'ils peuvent personnaliser leurs annexes vraiment plus en profondeur. Fait que mettre leur logo, mettre leur brand, toutes leurs affaires autour. Fait qu'eux autres, des fois, ils ont des requis plus compliqués s'ils s'en vont en bourse, etc. Ils ont des requis plus spécifiques. Fait qu'on est capable de travailler avec ces requis-là. Ce qui est le fun de travailler avec des très gros, des très petits, c'est que t'as vraiment le meilleur des deux mondes parce que t'apprends des deux. Fait que les très gros, souvent, leurs processus sont super efficaces parce qu'ils ont 3000 portes, donc ils gèrent tout vraiment en tête. Ils ont les meilleures pratiques. Fait que quand on design, exemple, le tri des candidats, ben on demande aux gros joueurs comment ils font pour trier les candidats, pour avoir les meilleurs candidats, ces choses-là, parce qu'ils ont l'expérience, ils ont le volume. Par contre, quand on cherche des nouvelles idées et des nouvelles pratiques, ben les gros, nécessairement, ils innovent un petit peu moins vite que les petits parce que c'est un pack de 10 portes. Tu veux les scanner en 3D pour essayer de sauver des visites, ben ça va être pas plus facile que si t'en as 3000, tu sais. Fait que ça nous est arrivé justement il y a 3-4 ans. Il y a un propriétaire d'une dizaine de portes qui scannait tous ses logements en 3D. On a regardé avec lui comment ça marchait. On a acheté une caméra, on l'a appris, puis on a appris aux gros joueurs à une agence de Québec qui a plusieurs milliers de logements qui scanne tous ses logements en 3D. Fait que tu sais, on prend les meilleures pratiques des petits et des gros, puis on ramène ça dans une plateforme.
Puis après ça, c'est que vous donnez ça accessible à tout le monde aussi, là.
Exactement.
Fait que ça, c'est quand même incroyable.
C'est pour ça que je dis qu'on est un petit peu le canac des de gestion, là.
Mais au-delà du bail aussi, c'est toute l'analyse qui se passe avant aussi, là, parce que tu sais, en un seul clic, je pense que vous êtes capable de regarder c'est quoi leur dossier de crédit.
Mm-hmm.
Ils ont-tu des dossiers au TAL?
dossier local, dossier hôtel, dossier criminel. Même chose. Ben là, on vient de lancer les enquêtes bancaires qui, grossièrement, te donnent accès à l'historique bancaire du locataire. Fait que ça te permet de savoir c'est quoi ses habitudes de paiement, plus en détail, plus que ce qui est sur Equifax seulement. Évidemment, il faut que le locataire accepte ça, là, mais je veux dire, c'est bon pour des cas où t'es pas trop sûr si tu devrais accepter le locataire. C'est que tu vois l'Equifax, il sort à genre 650, c'est comme payable. Mais là, tu vois son historique bancaire, il paye toujours son loyer à temps. Tu vois que genre, tu sais, ça paye STD, qui est vraiment sa job depuis un an. Fait que ça te permet d'accepter des candidats que t'aurais pas nécessairement pu.
On est rendu là maintenant, là, qu'on peut donner l'historique bancaire.
Oui, oui, effectivement, c'est ça. Si, dans le fond, avec une enquête sur Block, dans le fond, ça envoie un lien à ton locataire, puis il peut accepter de donner son historique bancaire s'il veut augmenter ses chances.
C'est quand même complètement fou. Puis au niveau du bail, là, comment ça marche pour adhérer à ça au niveau de la plateforme si on y va en premier propriétaire?
Yes, fait que comme proprio, c'est super facile. Tu vas sur Block, tu peux te créer un compte avec Facebook, Google ou directement sur Block. Fait que tu peux techniquement créer ton bail, tu vas créer ton compte en un seul clic. Une fois que c'est fait, tu remplis des infos de base sur ta compagnie, ton immeuble. En fait, ton immeuble, ce qui est vraiment cool, ça, c'est genre une petite feature bonbon, là. J'ai codé ça moi-même, là, genre 6-7 ans, puis ça marche encore super bien, puis je suis encore vraiment fier de ça. Quand tu rajoutes ton premier immeuble, tu le mets sur Google Maps, tu pins, mettons, whatever adresse, 729 Côte d'Abraham, tu fais Enter, ça te met en Street View sur l'immeuble, puis tu peux prendre une photo de ton immeuble. Fait comme ça, dans Block, quand tu navigues toujours par photo de ton immeuble, tu comprends? Mmh. Fait que, genre, il y a bien des propriétaires, c'est la première fois dans leur vie qu'ils ont, genre, leurs 10 immeubles puis les 10 photos de leur immeuble sur un seul écran, genre. Ouais, ça, c'est vraiment satisfaisant.
Que c'est pas sur un chiffrier Excel à checker, genre, qu'est-ce qui se passe dans l'historique.
Exactement. C'est juste, c'est plaisant de voir dans ton interface, quand tu naviguer par photo d'immeuble, ça rend l'interface vraiment le fun à utiliser. C'est basé, en fait, c'est drôle parce que j'ai eu cette idée-là à partir d'un jeu vidéo qui fait à peu près ça. Puis genre, ça file le jeu vidéo, c'est vraiment le fun à utiliser.
Fait que c'est là qu'il amène aussi la diversité à ses propriétaires d'immeubles, d'acheter des immeubles différents, pas tous pareils, pour être sûr d'avoir une différenciation.
Mais ça, c'est mon bout préféré, justement. Alors là, quand je signe un bail pour mes propres immeubles, ou genre, j'ai demandé de gestion des fois avec des clients, fait que quand je prends la photo studio, là, je prends le temps, je me mets en angle, puis je clique. Ça, c'est quasiment plus long que tout le reste du process, mais c'est le fun.
Exact. Fait que là, tu sais, il sort dans le 3D, puis là, il pogne sur le coin de rue pour justement prendre les deux angles. Ben oui,
exactement.
Je serais en même affaire.
C'est le fun à faire.
Après ça, donc, ils ont bien. Après ça, t'indiques les logements.
Après, tu t'es perdu comme 10 minutes sur Studio pour t'amuser. Genre, t'as eu ton fun, t'as pris tes photos. Donc, c'est ça. Ben, en fait, tu remplis tes détails, mais idéalement, tu remplis juste les détails sur ton logement au début, parce qu'après ça, ton candidat, c'est lui-même qui va remplir ses propres détails. Fait qu'une fois que t'as créé ton logement, t'envoies le lien à ton candidat. Tu sais, tu peux le rajouter toi-même. Fait que si t'as ton candidat en face de toi ou ton candidat, il est pas super habile avec un ordi, tu peux l'aider puis le faire toi-même. Mais la majorité du temps, ce qu'on conseille justement, c'est que t'envoies le lien à ton candidat. Ton candidat applique via ce lien-là. Fait que quand il applique, il va mettre toutes ses préférences, il va mettre justement le nombre de locataires, il va pouvoir lier ses colocataires, lier son endosseur.
Mm-hmm. Fait que tu sais, qu'est-ce que j'entends de ça, c'est que je m'inscris gratuitement, la plateforme est gratuite. Par contre, je vais devenir facturé du moment où je vais avoir un bail qui va signer. Tout le processus avant arrivera pas. Peut-être les enquêtes, par exemple, que ça, par exemple, ça va être facturé. À la carte, sûrement, je peux choisir lui, pas lui, etc.
Exactement,
etc.
Nos enquêtes seront les moins chères du marché. Fait que, puis ce qui est vraiment trippant de nos enquêtes, une petite affaire pour le monde qui font beaucoup d'enquêtes, vont se reconnaître là-dedans, là, c'est que quand tu fais ton enquête de crédit dans Block, tu payes d'abord pour ton enquête Equifax. Puis après ça, tu peux choisir de payer le dossier criminel, le dossier TAL, toutes les autres. Fait que si tu reviens avec un vraiment mauvais Equifax, une faillite ou quoi que ce soit, puis tu sais que tu veux pas le locataire, ben, tu sauves un 30-40$ sur les autres enquêtes que t'as pas à faire. C'est au lieu de devoir acheter le package au complet à toutes les fois.
Puis quelqu'un qui voudrait avoir le package au complet, ça peut représenter quoi? À peu près 100$?
Non, pas tout, là, c'est genre 30-40$ max. Là. C'est 10$ pour 10$ TAL, 10$ criminel, 10$ Equifax.
C'est vraiment pas cher parce que moi, je paye, je pense, 48$ pour des enquêtes de crédit trouvées sur Google quand je tape enquête de crédit Québec. Puis...
Non, mais tu sais, on est de loin les moins chers.
Pas cher. Yes. Mais il y a un autre point que tu as parlé super rapidement, mais j'aimerais ça qu'on y revienne, c'est le côté endosseur. Parce que ça, c'est un autre point aussi. Souvent, on n'ose pas, comme propriétaire, de demander l'endossement. Toi, tu peux le mettre dans un processus que c'est un peu comme...
Une obligation
ou une suggestion que la personne le fait sans trop réfléchir.
Ben d'abord, tu sais, comme propriétaire, tu as le droit d'exiger ce que tu as besoin d'exiger pour t'assurer que le loyer va être payé. Fait que si t'es pas confiant que le loyer va être payé, ben t'as le droit d'exiger un endosseur, ça, y a pas de problème avec ça. Par contre, ce qui est le fun, c'est que quand tu le fais dans la demande de location via Block, ben quand ton locataire il fait la demande de location, on va lui proposer lui-même tout de suite d'ajouter des colocataires, d'ajouter des endosseurs. Puis l'endosseur pour lui, là, c'est super facile. Il met l'email de l'endosseur, il fait next, puis c'est tout. L'endosseur va se faire envoyer une invitation, puis il va gérer ça lui-même de son côté. Fait que ce que ça veut dire, c'est que ça encourage beaucoup le locataire à se rajouter un endosseur. fournisseurs, surtout dans un marché compétitif où le locataire il cherche à se démarquer des autres locataires, ben, un locataire qui arrive avec un bon endosseur, ça a plus de chances d'escorer le logement que le locataire qui n'a pas d'endosseur.
Définitivement. Puis là, ça va. La roue est en train de tourner. Le levier à qui est le pouvoir change parce que là, présentement, il y a très peu de logements disponible, puis quand on va avoir un logement disponible, bon, on veut devenir le meilleur candidat, parce que là, tu sais, c'est plus le propriétaire qui passe le locataire en entrevue, tu sais. Mm. Le locataire, là, il show up, là, puis tu sais, je dois démontrer que je suis le meilleur candidat.
On n'est pas trop habitué à ça à Québec, Lévis, c'est sûr. En fait, à Montréal, c'est comme ça depuis plus longtemps, mais effectivement, à Québec aussi, ça devient de plus en plus compétitif. Même les autres centres-villes, Sherbrooke, etc., ça devient de plus en plus compétitif. Puis oui, dans ces marchés-là, tu sais, je veux dire, c'est ça, c'est le plus t'es certain d'avoir ton loyer, le plus t'as l'endosseur, le plus t'es certain d'avoir ton loyer, le mieux c'est.
Wow, pour vrai, là, ça met la table là, sur qu'est-ce que c'est. Moi, je pense que je comprends pas pourquoi que tous les investisseurs ont pas, genre, un compte chez vous. Pour une question de 1$ par bail, c'est pas ça qui fait la game, là. C'est pas ça qui fait la différence.
Non, c'est ça. Puis juste, justement, des économies connes, comme genre, justement, avoir un endosseur quand t'en aurais pas eu, ben, je veux dire, juste ça, ça peut te sauver des milliers de dollars dans the line.
Écoute, je me rappelle, moi, d'avoir été dans un Tim Hortons, m'asseoir avec quelqu'un pour signer un bail. Là, j'ai comme, j'ai pris ce temps-là pareil. Là, je me suis déplacé. J'ai sûrement payé un café, là, parce que je voulais être un bon propriétaire. Puis j'ai signé le bail, puis tu sais, sûrement, là, je vais prendre ton permis, je vais aller chercher dans le char. Fait que là, il partait, puis il revenait. C'est du temps perdu incroyable. Là.
Oui, puis c'est encore ça. Puis, comme je t'ai dit, 65-70% des baux au Québec sont encore signés de cette façon-là, papier. Là.
Quand t'es pas habitué, on va y revenir là-dessus. Tu sais, les fameuses annexes, moi, j'aimerais ça qu'on en reparle parce que j'en ai appris quand on a fait la pré-entrevue sur certaines annexes, dont la fameuse annexe des échanges de courriel, de courrier informatique et tout. Parce que souvent, c'est bien beau, là. Jeff, tu te pointes au Tim Hortons, tu signes pas toutes les annexes, tu penses pas à tout nécessairement. T'oses pas demander l'endosseur parce que de toute façon, l'endosseur, il est pas avec toi au Tim Hortons. Donc, tu sais, il y a vraiment, vraiment beaucoup d'avantages.
Ah oui, puis l'accessibilité qu'on peut avoir avec tout ça, c'est incroyable.
Il y a une petite affaire sur le Tim, justement. Genre, il y a des propriétaires qui me disent. Non, il y a des propriétaires qui me disent, moi, ce moment-là au Tim Hortons, c'est précieux pour moi parce que ça me permet de parler avec le locataire, de le voir, puis qu'il me respecte, puis qu'il y ait un humain en arrière de son loyer. Non, mais tu sais, c'est important aussi parce que, je veux dire, tes locataires, tu sais, s'ils n'ont pas l'impression qu'il y a un humain en arrière du loyer, ben, il y a peut-être des chances que, genre, ils priorisent moins ses paiements. Un peu, tu sais. Fait que, genre, il y a des propriétaires qui aiment ça, la relation humaine avec leur locataire, puis bloc empêche pas de rencontrer leur locataire.
Non, mais il y a les visites, là, de toute façon. Mm-hmm. Je veux dire, t'as fait la visite, t'as vendu, t'as fait ta relation humaine.
La visite, c'est une super opportunité, mais sinon, on a un client qui, lui, fait tout sur iPad, puis il se déplace dans le logement du locataire, fait que le logement actuel du locataire. Mm-hmm. Fait que, genre, au lieu d'aller au team, etc., ben, s'il va voir le logement actuel du locataire, il y a des chances aussi
de détecter. Y a-tu un chien, y a-tu pas de chien, les odeurs, c'est-tu propre, c'est pas propre.
Exactement.
Autour de la toilette, ça ressemble à quoi?
Non, mais fait que tu sais, ça c'est jouable.
Ça, c'est comment se voir comment que cette personne-là va utiliser ton bien.
Là, il prévoit quelqu'un qui l'appelle 10 minutes après être arrivé, comme ça, s'il veut s'en aller, il y a une urgence, comme une Oh, faut que j'y aille, j'ai une urgence, je te reviens.
Yes, puis après ça, ben, pour le reste, il va dire, avoir un bail numérique, c'est pas juste à propos de pas rencontrer ton locataire. C'est sûr que ça sauve du temps quand tu peux éviter une rencontre ou un déplacement. Mais c'est pas juste à propos de ça. C'est aussi, tu sais, tu génères ton relevé 31 à fin de l'année automatiquement en bloc. On est autorisé par Revenu Québec à transmettre les relevés 31.
Wow.
Cette année, on en a transmis quelques milliers. Puis justement, genre, tu sauves du temps à ce moment-là. Tu l'envoies par bloc, c'est réglé. Ça, tu sais, c'est un déplacement inutile en masse.
Tu parles pas ton bail aussi parce que veux pas le bail papier, là, format légal, tout papier mou, là, que tu sais pas trop où tu mets. Si t'en as moindrement une poubelle, tu peux l'en perdre.
Non, c'est ça. Puis s'il faut que t'aies hôtel qui est tout chiffonné, qui est à moitié effacé, qui a une tache de sauce dessus, il doit en avoir des bagues avec des taches de sauce. Là,
des
60%
de café Tim.
C'est ça, 60% des beaux Québec sont encore papier. Là, fait qu'il doit en avoir en masse des bagues avec du Tim dessus au tal.
Puis tu sais, le bail en toute franchise, là, ça doit être 3-4 piastres. Avant ça, c'était 2,99.
Non, c'est encore 1,99 en fait.
1,99.
Ouais. Ça, c'est drôle, d'ailleurs, petite bulle là-dessus. Là, je paye plus cher comme licence pour émettre des baux à Publication Québec que ce que ça coûte d'en acheter un papier. C'est quand même hilarant.
Ben ouais,
fait que genre, moi, ça me coûte genre 2,50 par bail. Ça me coûte 2 piastres plus, c'est à peu près 1,57. Ça me coûte à peu près 2,50 par bail en licence à Publication Québec pour générer les baux.
Bon.
Puis genre, ben, ils sont en vente à 1,99 au dépendant.
Ça va pas d'allure, faut que tu fasses un nouveau recours raté contre Publication Québec.
Tente-moi pas. Non, non, mais ils ont, pour être clair, ils ont le droit, c'est leur droit d'auteur, fait que je paye du droit d'auteur sur le formulaire. OK, mais tu sais, c'est un formulaire obligatoire.
Ouais, jusqu'où le droit d'auteur.
C'est ça,
je suis d'accord. Vous êtes à l'écoute de l'Alternative Radio CGMD 96.9. La bulle immobilière, c'est un classique pour les entrepreneurs en immobilier. Il faut nous écouter. Si jamais vous nous avez manqué, c'est pas grave. Vous pouvez nous écouter sur les différentes plateformes Spotify, Apple Podcasts et Balados.
La bulle immobilière, présentée par Airfortin.com. Airfortin.com achète des blocs, des maisons et des terrains partout au Québec. Allez maintenant sur Airfortin.com.
Yes. Oui, il va l'acheter ton bloc.
Airfortin.com. Yes. 96.
ImmeubleCS.com.
Vous écoutez CJMD.
Talk, rock, hip-hop
et beat the club.
La bulle immobilière au 96.9. Alternative Radio.
On reçoit chaque semaine des invités spécialisés en immobilier. Puis aujourd'hui, on reçoit François-Xavier Raté, président fondateur de Bloc Solutions. Déjà venu à notre émission avec un de tes collègues, je crois, à l'époque.
Oui, c'est Sébastien, je pense qu'il était venu à l'époque parler de Bloc.
Exact. Puis, tu sais, on parle de 2-3 ans. Ça a évolué depuis, là. C'est pas.
Oui, à l'époque, c'était bye, bye, bye. Tout ce qu'on faisait, c'était le bye. Puis, en fait, on venait de lancer le premier bail numérique au Québec.
Exact.
Puis, on avait le seul et donc le meilleur. Non, toujours le meilleur, mais plus le seul.
mais là, on est au moins rendu à la version 13-14. Tu sais, on n'est plus à la même place.
Non, ça évolue. Genre, quasiment tous les mois, on fait un update dessus pour améliorer des trucs, réduire les problèmes de support. Dès qu'on a un problème au support à clientèle, ça t'sais, pour moi, quelqu'un qui appelle ou qui crée notre support à clientèle, c'est un problème d'application. C'est pas un problème d'user, c'est un problème que l'application était mal designée. Il y avait un problème, il y avait un bouton qui était pas là. Il y avait quelque chose qui aurait dû répondre à son besoin sans qu'il y ait à nous appeler.
Ouais, c'est ça. Il aurait fallu que ça soit plus user-friendly, que ça soit plus simple, que lui, pour lui, ça n'a pas été genre.
C'est ça. Fait que si t'as besoin de nous contacter, fine, fais-le, mais le problème, c'est nous autres. Fait que c'est pour ça que, ben, c'est ça.
Mais c'est cool,
ça,
avec ça,
tous les mois, t'es toujours en train d'améliorer tes affaires.
C'est cool, ça, par exemple, d'avoir justement ce mindset-là, parce que t'es jamais sur le statu quo, t'es toujours en train de vouloir innover, progresser, puis avancer dans tes business. Puis, tu sais, à toutes les fois, puis écoute, c'est drôle que tu dises ça, parce que nous, à toutes les fois qu'il y a un processus qui est pas suivi, ou que quelque chose qui fait en sorte que ça l'a mis un petit peu de sable dans l'engrenage, mais là, très rapidement, on va ressortir les procédures, on va revoir les différentes étapes pour faire en sorte que cette situation-là n'arrive plus par la suite. Ce qui fait en sorte que, tu sais, ça devient des fois plus lourd, par contre, qualité fois 1000. Puis, tu sais, c'est ce qui fait en sorte aussi que vous avez une très grande rétention de vos clients aussi. Là.
Oui, c'est ça. On a presque tous nos clients. En fait, nos clients meurent plus régulièrement qu'ils nous quittent. Là. Fait que c'est quand même drôle parce que les successions... Non, mais on n'en parle pas beaucoup, mais je dirais que les propriétaires immobiliers, ils ont un certain âge en partant. Fait que, genre, quand on a 10 500... À chaque année, nécessairement, il y en a une bonne partie qui vont.
Je m'attendais pas à ça.
Ouais. Oui. Fait que les successions nous appellent, dire hey, on n'a plus accès aux emails, peux-tu me resetter le compte? Fait que là, on valide l'identité, puis après ça, on leur reset, puis on transfère l'ownership des comptes aux successions.
Et là, boum, toute l'information est là.
Oui, fait qu'on a comme, on a genre un 20% de nos tickets clients, que c'est genre mon propriétaire, ben comme mon père est mort, je peux-tu revoir l'immeuble?
Hey, mais tu sais, c'est ça. Et en même temps, tu sais.
Là, il voit le calendrier avec toutes les photos. C'est le
mais tu sais, au-delà de ça, là, t'imagines. Comment ça vient faciliter la gestion, les numéros de téléphone des locataires, les appels. Écoute, moi, je suis courtier immobilier. Là, je vends des immeubles à revenus. Mm. Je demande des baux, des annexes. J'ai des vieux baux. Je suis obligé genre de les déchirer pour pouvoir qu'ils rentrent dans mon imprimante, les scanner, les numériser. Je suis obligé de me faire un fichier Excel avec le résumé des locataires. C'est quoi leur nom? C'est qui le deuxième? Ils ont-tu le droit au chat, pas chat? C'est quoi les inclus, pas inclus? C'est quoi les frais?
Y a-t-il un rabais? Il n'y a pas de rabais? Mais je trouve ça hyper intéressant parce que je dis souvent à mes clients, ce qui donne la valeur à une entreprise, c'est pour avoir d'indispensables, tu sais, de couper les indispensables, d'avoir l'accès à l'information à plus de gens possible. Et ta solution, effectivement, c'est vraiment efficace par
rapport à ça. Parce que là, t'es plus people dependent, là, t'es position dependent. Puis, tu sais, à la place d'avoir un classeur, trois tiroirs, d'aller là, puis de venir fouiller tout ce qui se passe là-dedans. Puis, tu sais, sûrement que dans les changements de locataires, vous gardez l'historique des anciens.
Oui, évidemment. C'est ça, évidemment, tu gardes un historique de tout ce que tu as fait toujours sur la plateforme. Fait que ça, c'est ça. Tu peux toujours télécharger tout ton historique. Ça, c'est une inquiétude de certaines personnes. Ah, vous êtes cloud. Qu'est-ce qui arrive si vous disparaissez? Bon, évidemment, on disparaîtra pas parce qu'on a 10% du Québec. Mais genre, mettons qu'on disparaît. Je veux dire, tu peux toujours télécharger tous tes documents. Quand tu as fini de signer ton bail, on te l'envoie par courriel. Fait que tu l'as toujours de ton.
Si tu veux pas renouveler ton abonnement, tu télécharges tout aussi avant de
quitter
dans le pire des cas.
Fait, même si tu renouvelles pas ton abonnement, tu gardes accès à toutes tes données historiques. Okay. Là, fait qu'on coupe pas ton accès, là, jamais.
Même pas.
Non, okay. c'est juste qu'on ne te permet pas de générer des nouveaux bons, on ne permet pas de générer des nouvelles communications. Mais si jamais tu ne veux pas payer, tu continues de garder ton compte. Tu fais ce que tu
veux. Quand même cool.
Très cool.
C'est vraiment, vraiment très cool.
On parlait des nouveaux outils. Ben là, justement, les prélèvements automatiques, j'aimerais ça que tu nous en parles.
Ça, je vais en parler parce que genre, c'est un peu comme Henry Ford qui a dit si j'avais demandé au monde qu'est-ce qu'il voulait, il y aurait genre eu un chariot avec un cheval qui allait plus vite. Là. Ça, c'est la même affaire. Quand on demande aux gens qu'est-ce qu'ils veulent faire pour le suivi de leur paiement de loyer, tout le monde nous dit on reçoit nos paiements par Interac ou j'encaisse mes chèques papier. Fait que là, ce qu'ils veulent, c'est genre un bon scanner de chèques ou genre un système pour encaisser des virements Interac automatiquement. Mais c'est genre c'est des mauvaises solutions à un mauvais problème. Là. Genre, c'est pas ça qui est bon pour le propriétaire, ni pour le locataire d'ailleurs. Là. Mm-hmm. Et ben, d'abord, le locataire, à tous les premiers du mois, il a le trouble de se donner d'aller. Ben non, il faut qu'il fasse des chèques papier, ce qui est quand même absurde. Puis ou par Interac, ce qui est plus commun, il faut quand même qu'il ait envoyé le virement Interac le premier du mois. Fait que c'est plus facile pour tout le monde d'avoir du DPA qu'on appelle du débit préautorisé. Fait que du débit préautorisé, ce que c'est que le propriétaire de son côté va aller configurer, bon, c'est quoi le montant? En fait, le montant du loyer, on l'a déjà dans le bail, là, fait qu'il est rempli automatiquement, mais il va aller configurer, puis, ben, en fait, la durée aussi, on l'a déjà, fait rempli automatiquement, mais il va juste aller configurer son compte de banque, il nous donne ses informations bancaires. Nous autres, on va aller prélever l'argent dans le compte du locataire puis on va le déposer dans le compte du propriétaire le premier du mois. Puis avant, on avait comme un 5 jours de délai, mais à cette heure, c'est rendu instantané. Fait que le premier du mois, automatiquement, boum, tes loyers rentrent.
Peu importe l'institution financière,
en tant que tu es au Canada, tout est instantané.
Wow, ça c'est cool, là, parce que tu sais, nous, en date d'aujourd'hui, on fait des transferts, c'est des TFE, là, tu sais, qu'on fait des transferts entre institutions financières. Puis écoute, il y a souvent des délais de 24-48 heures, puis tu sais, on peut télécharger des plus grandes sommes. Par contre, il y a toujours des grands délais. Fait que, tu sais, je trouve ça vraiment cool, l'instantanéité de ça aussi.
Oui, c'est ça. Pour un compte donné, la première transaction peut être un petit peu plus longue juste à cause des risques de fraude et tout ça. Mais régulièrement, si tu collectes tes loyers tous les mois...
Après ça, ça va se clarifier le jour même.
Puis, tu sais,
au-delà de ça, imagine tu as 10 locataires qui payent 1 000 chaque. Tu as 10 000 piastres que tu déposes dans ton compte la première journée. Les institutions financières se mettent aussi des processus de sécurité où ce que tu as... 5 000 piastres de disponibles. Fait que t'as toujours une partie de ton argent qui va être gelé pendant une période de 5 à 7 jours.
Techniquement, il est pas gelé. Quand il rentre par bloc, techniquement...
Non, c'est ça, exact. Mais généralement, si je prenais un chèque, que je prends une photo, tu sais, je vais avoir une limite où ce que je vais pouvoir, tu sais, par exemple, sur les 10 000 déposés, je vais peut-être en avoir accès juste à 5 000. L'autre 5 000 va redevenir disponible dans 5 à 7 jours, tout dépendamment des institutions financières. Il y en a que c'est par jour, il y en a que c'est par semaine. Fait que, tu sais, c'est à voir de quelle façon que ça va faire, mais des dépôts préautorisé comme ça, ça fait en sorte que l'argent est right now dans le compte de banque, disponible 100% et sans délai. C'est malade, là.
Oui, puis aussi, justement, par rapport au virement Interac, juste le fait de pas avoir à courir après tes virements. T'sais, si t'as un appartement, deux appartements, trois appartements, tu te dis, ah, c'est pas trop pire, genre, j'encaisse mes trois virements Interac à tous les mois. Mais tu sais, quand même, c'est une charge mentale, c'est un fardeau à faire, tu le fais pas nécessairement le premier du mois. Si t'es pas rapide, ton locataire, tu sais, si sa situation financière change trop, il pourrait l'annuler. Et puis, tu sais, à trois logements, souvent, t'as pas encore eu des gros problèmes avec tes locataires encore. Parce que, tu sais, mettons, t'as peut-être 1 ou 2% des locataires qui payent pas à chaque mois. Ben, ou qui ont des problèmes de paiement en général. Fait que, tu sais, si t'as 2-3 logements, t'as peut-être jamais eu de problème de paiement, mais attends pas d'en avoir, là. Tu vas en avoir un moment donné.
Ouais,
t'as beaucoup moins de chances d'en avoir si tu fais du DPA, si tu prélèves dans le compte de ton locataire plutôt que si t'attends son virement Interac sagement les bras croisés.
Au-delà de ça, tu sais, moi, j'ai des fournisseurs qui m'ont payé, puis là, je me dis, ah, m'as-tu payé février, m'as-tu payé mars? Là, je suis obligé de retourner dans mon logiciel comptable à savoir si c'est payé ou pas. Tu sais, puis justement, 1-2-3 locataires, tu le sais, là, t'attends après pour faire payer ton hypothèque de toute façon. Là. Mm-hmm. Mais tu sais, vient un certain rendement puis un certain roulement que quand t'en as 30, puis tu sais, en même temps, j'en reçois des virements Interac, il y en a qui m'envoient ça par courriel. C'est quoi la petite question secrète? Il y en a qui envoient ça par message texte, j'en reçois 800 par jour, fait que je perds le virement Interac. Puis à un moment donné, je reçois un appel. « Hey, c'est à cause qu'il te reste une journée. »« Ah ouais, crime, ça fait 29 jours finalement que je ne l'ai pas déposé. » Ça élimine tout ça. Là.
Exactement. Là, c'est tous des problèmes. Puis juste, tu dis « Ah ouais, je vais dire la question à mon locataire. » Il va dire « Ok, celui-là, il comprend peut-être bien, mais le prochain, puis l'autre à côté. » Puis genre, son coloc. Il y a tellement de places où ça peut failer.
Faut jamais penser qu'ils comprennent bien, peu importe à qui qu'on parle.
Mais c'est pas méchant de parler des locataires, c'est vrai, n'importe quel client, n'importe quel éditeur.
Ça peut être des employés, ça peut être des partenaires d'affaires, ça peut être n'importe qui. Là.
Non, c'est ça, c'est de la communication entre des humains, c'est tout le temps un mess. Fait que non, le DPA, ça rend ça clair. Ouais. Le prélèvement, il se fait le premier du mois automatiquement. Genre,
le 2 du mois, s'il est pas, il y a eu un rebound ou quoi que ce soit, mais tu sais, lui, il a une tâche parce que justement,
ouais.
Il y a eu un rebound sur son compte.
C'est ça. Fait qu'il y a un incitatif à faire attention à ce que son argent soit là, parce que sinon, son argent n'est pas là, ça va faire un tag de NSF. Ça va apparaître sur sa fiche de crédit, ça va affecter son crédit.
Puis en plus de ça, c'est que toi, le 2, si c'est pas payé, mais il y a déjà un avis écrit qui est envoyé.
Exactement. Fait que.
Consulter ou pas consulter, c'est bon, pareil.
Ça, dès qu'il est envoyé, il est envoyé. Comme je te dis, la communication par courriel, dès que c'est envoyé, c'est envoyé.
Waouh, c'est quand même cool. Puis, tu sais, au niveau du bail, au niveau des services, y a-tu d'autres petites gold nuggets qu'on devrait savoir? Ou peut-être, tu sais, c'est quoi la prochaine phase?
Oui, ben les prochaines autres phases, tu sais, il y a beaucoup de nos propriétaires qui nous avaient parlé des assurances, qui nous avaient parlé que les assurances, c'est beaucoup de documents aussi. T'sais, c'est beaucoup de gestion de documents, c'est beaucoup de genre communication, beaucoup d'historique de communication, ces choses-là. Fait que ça tombe en plein dans nos forces, avoir des bonnes communications claires par écrit, avoir un historique de documents clair, éventuellement s'en aller vers la comptabilité de ça. Fait qu'il y a beaucoup de clients qui nous amènent vers de l'assurance propriétaire. Il y a beaucoup de clients qui nous amènent vers
l'assurance locataire.
Non, ben l'assurance locataire, en fait, c'est drôle, on en vend déjà pas mal. Parce que quand ton locataire s'assure, ben, en fait, il finit de signer son bail sur Bloc, on lui demande sa preuve d'assurance, puis s'il n'y en a pas, il peut s'assurer à même Bloc Solution avec notre partenaire qui s'appelle
Lucas. Ah, mais ça, wow. C'est vraiment cool parce que c'est la note que je prenais parce que ça m'est arrivé, moi, mon premier logement. J'avais un Lexus IS300 à l'époque, qui était un beau char pour l'âge que j'avais, puis qu'est-ce que c'était l'auto. Puis mon locataire du rez-de-chaussée avait des enfants de 4 ans qui a pris des roches. Puis il a graffiné tout le tour de mon auto, dont, tu sais, ma trappe pour le gaz, qui était rendue blanche, et mon char était charcoal. Mm. Pour vrai, là, je suis venu bleu marin. Puis là, j'ai dit, écoute, tu sais, je comprends, c'est un enfant, etc. Tu sais, de toute façon, on va réclamer à tes assurances. Elle dit, ah non, elle dit, j'ai pas d'assurance. Puis j'étais comme, comment ça, t'as pas d'assurance? Moi, j'étais comme d'emblée, là, les gens ont toutes des assurances.
50% des locataires au Québec sont pas assurés, c'est complètement fou. Fait que, genre, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de gens qui ont pas d'assurance, puis ça, ça cause des dommages énormes. C'est un problème pour les propriétaires, mais c'est un gros problème pour les locataires aussi, là. Je veux dire, la petite madame, elle doit pas être contente que son enfant ait scratché puis qu'elle soit responsable de ça puis qu'elle ait pas d'assurance.
Non, non, je sais, mais tu sais, j'ai
pas. Mais non, la personne qui passe au feu, là, une fois par année, qui a pas d'assurance, qu'on l'entend parler dans les médias ou, tu sais, dans les communautés Facebook.
Ça coûte genre
200$
par année, l'assurance locataire, là. C'est une vraie
fait là, qu'est-ce que ça vient dire, c'est que là, moi, dans ma plateforme de gestion, mon locataire, il est obligé de fournir sa preuve, il doit avoir un annexe, etc., puis sa preuve est dans mes dossiers.
Ouais, malheureusement, au Québec, on n'est
pas obligé.
Ouais, c'est pas juste ça, c'est compliqué. Genre, tu peux l'obliger, tu peux refuser de signer le bail si t'as pas la preuve, mais tu peux pas obliger le locataire, après avoir signé le bail, à te donner sa preuve d'assurance, ou tu peux pas l'obliger à s'assurer en général.
Ou de faire le renouvellement.
Ouais, c'est ça. Ben, en fait, c'est ça, ou de renouveler son assurance.
Puis, est-ce qu'on pourrait, par exemple, le voir à l'inverse, un peu comme Loch Ness? Tu dis qu'une assurance locataire peut être à 200$ par année, par exemple, pour un locataire.
Ouais.
Est-ce que dans un cas comme ça, est-ce que nous, à titre de propriétaire, on pourrait pas payer la prime?
Non, j'aimerais ça, mais non, malheureusement, c'est compliqué parce que dans le fond, dans ce cas-là, ce serait pas la personne qui paye la prime. Qui, dans le fond, en tant que propriétaire, tu paierais la prime, c'est pas toi qui es assuré. La relation serait trop compliquée. Les assureurs veulent pas s'embarquer là-dedans pour des assurances locataires.
OK.
C'est pas. Non, malheureusement, c'est pas encore ça. C'est ça. Éventuellement, un jour peut-être, là,
mais comme tu dis, si la personne est d'accord, elle consent, elle donne la preuve, c'est permis.
C'est déjà mieux que 90%.
C'est déjà mieux, mais oui, puis juste le fait d'y penser, tu me dis ça, là, puis mes deux locataires, j'ai jamais parlé d'assurance avec eux autres.
Ben, c'est ça.
Déjà, tu sais,
si t'as 50% de tes locataires assurés, ce qui est la situation actuellement, ou 75% de locataires assurés, c'est déjà 25% mieux que.
Mais non, c'est.
Fait que t'as pas besoin de 100% de tes locataires qui s'assurent. Si t'en assures plus grâce à Bloc, ben, c'est déjà ça de gagner.
C'est vraiment.
Puis tu parlais un peu du futur, vite. Dans le fond, bon, fait qu'assurance propriétaire, on se dirige dans cette direction-là éventuellement. On va faire. On aspire à faire la meilleure solution pour l'assurance propriétaire. Personnellement, je suis en train de faire mes cartes de courtier d'assurance. Fait que je vais pouvoir, après le succès de mes examens à l'AMF et tous les détails administratifs, je vais pouvoir commencer à vendre l'assurance propriétaire. Fait que ça, c'est une chose qu'on s'en vient quand même vite. L'autre chose qu'on fait demander beaucoup, c'est la comptabilité. Tout le monde veut faire sa comptabilité d'immeuble ou veut simplifier sa comptabilité d'immeuble. Déjà, les paiements, on peut les exporter vers QuickBooks. Mais, tu sais, dans la prochaine année, ça va être une des fonctionnalités majeures qu'on va pousser des updates pour améliorer la synchronisation avec QuickBooks.
Vraiment, vraiment, vraiment malade. Puis, tu sais, qu'est-ce que j'aime de ça? C'est qu'il va y avoir, tu sais, une troisième entrevue avec ces présentations de ces nouveaux outils-là dans quelques années. Puis peut-être qu'à vitesse que tu travailles, ça peut être dans quelques mois seulement.
Ouais,
fait que, tu sais, ça peut être quelque chose de vraiment cool. Merci beaucoup, François-Xavier, d'avoir été présent.
Blocsolution.com.ca.
C'est Bloc.solution.
Bloc.solution.
Singulier.
Avec un S.
Avec un S. Fait qu'il y a plusieurs solutions. Fait que ça, on aime ça. Merci Sylvie d'avoir été présente. Merci nos auditeurs d'avoir été présents parce que je pense qu'on vous fait toujours découvrir des gold nuggets. Il y a des fois qu'on se lance un petit peu plus sur l'entrepreneuriat, mais tu sais, on est entrepreneur à titre d'investisseur. Fait que tu sais, ça fait partie de la ligne directrice. Pour vrai, Bloc Solution, c'est une découverte à faire. Allez consulter les sites web. Puis, tu sais, c'est super simple. Ils sont super proactifs aussi sur les réseaux sociaux. Puis, je pense que vous cherchez quelqu'un en marketing.
Yes, marketing, vente. S'il y a du monde qui sont intéressés à développer le réseau de mobilier puis embarquer dans ce défi-là, on a du monde.
Yes, sir. Passez une belle journée, tout le monde. Merci, François-Xavier.
La bulle immobilière, présentée par Airfortin.com. Airfortin.com achète des blocs, des maisons et des terrains partout au Québec. Allez maintenant sur Airfortin.com.
Yes. Oui, il va l'acheter ton bloc. Airfortin.com. Yes.
CJMD, c'est la station. Pas pour les doux.
Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house, with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. warbyparker.com/covered.
Hey everyone, Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.